Bonjour à toutes, bonjour à tous. Installez-vous confortablement dans votre siège, les pubs viennent de se terminer, les lumières s'éteignent et la séance de la troisième rangée va commencer. On entame ce mois glacial de février et rien que pour vous, on a bravé la neige d'abord pour aller en salle et ensuite pour vous débriefer les sorties ciné, autant dire qu'on a du mérite. Au programme de cette fin janvier et début de février, nous allons revenir sur les films qui nous ont marqué en ce moment en salle. On commencera par un film français de genre Revenge de Coralie Farja. Comparé au Forceps à Grave, on verra si les deux films ont quoi que ce soit en commun. Toujours en France, Gaspard va au mariage, cela joue comédien indé au zoo, avec Félix Moati et Laetitia Doche, tandis que, dans un registre beaucoup plus terrifiant, Jusqu'à la garde vous collera, je m'emporte garant de sacrés frissons. Petit détour par deux chemins de traverse, par la case animation d'abord avec Croman, et par la case documentaire grâce à Stéphanie Guillard et son The Ride. Deux grosses sorties bien éloignées pour terminer, la surprise The Cloverfield Paradox, troisième opus de l'énigmatique saga produite par J.J. Abrams, sortie sans l'ombre d'une promo sur Netflix, et Wonder Wheel, un Woody Allen dans la tourmente, mais un Woody Allen quand même. On se détendra enfin autour d'un petit quiz, Quentin se chargera de nous faire un jeu qu'il a promis en coulisses, je cite... peut-être très rigolo. Pour m'accompagner sur tous ces sujets, j'aurai le plaisir d'avoir en ma compagnie, c'est là où je vais vous appeler, chers amis, Quentin, bonsoir.
Bonsoir.
Florian.
Bonsoir.
Nam.
Bonsoir.
Et Laurent.
Bonsoir tout le monde.
Est-ce que vous allez bien ?
Oui.
Ma foi très bien.
Ma foi oui.
Ma foi oui. Moi perso j'ai eu mon petit coup de cœur, on y reviendra jusqu'à la garde à la fin, j'ai eu mon petit coup de cœur de la semaine, j'espère que vous avez eu le vôtre aussi, mais je pense, quelque chose me dit... qu'il va y avoir du poison qui va cracher de ses jolies petites lèvres ce soir. Je n'en dis pas plus, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de nous plonger dans les sorties de la semaine, je vous propose de Yamayo Yamayo. Vous allez comprendre, c'est The Taste of Tea. Yamayo Yamayo, Yamayo Yamayo. On commence l'émission avec le coup de projo, comme d'habitude, The Taste of Tea ou Le Goût du Thé en français, c'est un film japonais, réalisé par Katsuhito Ishii, ça a été proposé par Quentin qui a gagné le jeu de la semaine dernière. Quentin, quel est cet ovni que tu nous as fait voir ?
Alors, Le Goût du Thé, donc, c'est un film japonais que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a peut-être un an ou deux. Alors l'histoire elle est assez simple, en fait, c'est qu'on suit une famille qui s'appelle les Haruno. Ils habitent dans une petite ville, c'est pas très loin de Tokyo, tout ça, et en fait, ils sont 6 dans la famille. Donc, il y a le père qui fait de l'hypnose thérapeutique. Il y a la mère qui est animatrice, qui en fait travaille dans des. Qui fait des films d'animation, quoi. Après, il y a le grand. C'est le beau-frère qui est. Je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il est musicien, il a été musicien pendant un moment.
Bon, il est mixeur en studio.
Voilà, il est mixeur en studio, il est ingé son. Alors là, ça va commencer à se compliquer. Il y a l'autre frère qui est donc l'aîné qui est en train de vivre ses premiers amours dans un club de go. Et la petite dernière, qui est suivie par un double géant d'elle-même. Sans oublier évidemment le grand-père absolument ouais. Incroyable. Et voilà, et en fait, on les suit faire des choses très bizarres dans leur vie.
Le Goût du Thé, ça date de 2004 et il y a un côté tout à fait poétique à ce film, quand bien même la poésie s'exprime d'une manière un peu particulière.
Bah ouais, en fait il y a des trucs très c'est très inattendu, c'est à dire que va y avoir, enfin moi je vais prendre une scène tout à fait qui est dans le film. À un moment au début le lycéen en fait loupe son train. C'est une scène qu'on a vu plein de fois, on voit le train s'éloigner comme ça, et en fait à ce moment là le train, il y a une version miniature du train qui lui sort du front et qui va vers le ciel, et scène suivante. Et en fait, c'est que des choses comme ça. On a l'impression que c'est un gamin de 10 ans qui a écrit un film, et il a dit, alors là, à un moment, il y a un métro qui sort de la tête du gars. Et voilà, et c'est que des choses comme ça, quoi.
Alors, à préciser, Le Goûter, c'est donc un film à sketch qui s'y est plutôt bien, à cette espèce de famille qui est éclatée, mais unie quand même. C'est un film à sketch qui contient quand même un fil rouge, et c'est ça qui t'a plu, Florian.
Ouais, c'est ça, c'est que on est vraiment sur un film à sketch avec des suites de situations qui sont peu ou pas vraiment liées entre elles, et parmi ça on a vraiment tout un fil rouge et on suit l'histoire en parallèle de chacun des personnages avec leur propre situation et leur propre vie, et même s'il y a certaines scènes qui sont vraiment très décorrélées de l'histoire, on sent qu'il y a vraiment une continuité dans l'histoire de chacun et un dénouement à chacune des histoires.
Ouais. Et le fil rouge tel qu'il est, tel que tu l'as perçu, c'est sur ces marginaux qui sont si bien représentés, j'ai l'impression, dans le cinéma japonais notamment, sur le, voilà, le côté contrainte sociale, pression sociale, ces marginaux qui sont à côté de tout et pourtant qui décèlent une certaine beauté en eux, même si elle peut paraître fragile, désuète, imaginaire pour pas mal de personnages. Et y a un côté film sur les marginaux qui est parfaitement, je dirais, touchant.
C'est ça. C'est que le film, chacun des personnages, en fait, est quelqu'un de marginal dans la société du Japon. C'est qu'on a, on a beaucoup d'artistes. On a parlé d'ailleurs du beau-frère qui est mangaka, qui est vraiment le cliché du mangaka japonais dans son studio. Et donc, chacun des personnages vraiment vit en marge de la société. Et au final, ce que le film essaie de nous montrer, c'est que finalement, ce sont ces personnes-là qui font aussi le Japon tel qu'on le connaît et qui font la beauté du Japon. C'est que... Ils font partie intégrante du Japon et de ce qu'on connaît du Japon.
Bah, souvent, on parle du Japon comme une terre, enfin une société qui est très empreinte de pression sociale, de pression des aînés sur les plus jeunes, pression familiale. Et là, tu as aussi le revers qui dit que, certes, cette pression-là, elle existe, mais elle permet de donner naissance à une espèce de réaction face à cette pression qui est assez, assez extraordinaire, quoi. Il y a presque qu'au Japon qu'on pourrait voir ça, je sais pas si... C'est exactement ma phrase, mais c'est tel que je l'ai ressenti.
Y a un côté aussi du film par rapport à l'imagerie que nous renvoie le Japon. En fait, toute cette imagerie est représentée par des marginaux dans le film. Donc aussi, d'une certaine manière, ce que le dit le film, c'est qu'au final, ce qui fait la spécificité du Japon, tel qu'on la voit à l'étranger, c'est fait par les marginaux. Et y a un autre point aussi dans le film qui est assez intéressant, je trouve. C'est qu'en tant qu'étranger qui voit ça, ou même n'importe qui d'à peu près normal qui voit ce film, t'hallucines les trois quarts du temps de ce que tu vois.
Bien sûr.
Et les personnages, mais au sein même du film, ils se regardent beaucoup les uns les autres. Et eux-mêmes ont tendance à voir des situations où eux aussi, tu vois, qu'ils comprennent pas, où ça les choque, ils sont hallucinés. Et il y a tout ce côté du regard des uns les autres qui est aussi très important dans ce film.
Et qui les unit, qui unit la famille.
Mais ça, aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très inhérent à l'Asie d'une manière générale. Parce que moi, pour avoir été en Chine, par exemple... En Chine, quand moi je suis arrivé, pendant 2 jours, j'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. C'est-à-dire que j'étais juste fasciné. Je savais pas ce que c'était. C'est quelque chose de très différent culturellement et tout ça. Et en fait, au Japon, c'est pareil. Quand on voit des images des villes au Japon, de la culture japonaise, on est tout le temps étonné, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, le goût du thé, c'est le digne représentant de ça. Sans le côté oh là là c'est japonais du coup c'est what the fuck et tout qui moi est un écueil qui m'énerve beaucoup mais c'est que ok c'est what the fuck mais c'est d'une sincérité à toute épreuve quoi.
Mais je suis d'accord avec toi et surtout par rapport à ce que tu dis c'est que même la mise en scène du film fait totalement écho à ça, c'est que pendant toute la mise en scène dans chacune des scènes il y a un vrai décalage entre ce qui se passe, entre ce qu'on voit et entre ce qu'on ressent et j'ai eu moi du mal vraiment à certains moments de me dire mais j'étais complètement sorti, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois?
Mais il y a un côté, moi ce que j'ai apprécié, c'est que je suis pas très fan, pour être absolument subjectif, je suis pas très fan du côté what the fuck asiat, parfois. Qui va, voilà, il y a un côté nanar asiat qui peut aller très très loin. Ouais. Je suis assez hermétique à ça, mais je trouvais que c'est un what the fuck, s'il fallait le comparer, puisque rentrons dans cet écueil-là, c'est un peu à la Gondry. C'est-à-dire que c'est très poétique. Chez Gondry, t'as une fine couche de glace entre la folie et la poésie, et c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu dans le goût du thé. C'est un équilibre qui est là et qui te montre des éléments qui sont certes, si tu les prends indépendamment, effectivement c'est n'importe quoi. T'as une petite gamine qui a son double de 8 mètres de haut et qui apparaît peut-être la première à travers la montagne, certes, mais c'est justifié, c'est pas là pour être là, c'est pas là pour...
Mais souvent chez Gondry c'est des petits trucs qui sont vachement accentués.
Oui c'est ça.
Que ce soit assez, très visuellement, et du coup c'est... Par exemple, je sais plus, il y a... Je crois que c'est dans La Science des Rêves, il y a un moment, le personnage de Gaël Garcia Bernal, il a la sensation d'avoir des grosses mains. Je sais plus pourquoi, parce qu'il n'arrive pas à faire un truc. Et du coup, dans le film, il a des mains géantes, parce que du coup, il est incapable de faire. Et je pense que là, on s'en rapproche un peu.
Ouais. En fait, dans le goût du thé, moi, ce que je trouve que c'est vrai que Gondry, ça ressemble beaucoup. Et moi, je trouve que ce qui est bien dans le goût du thé, c'est que toutes les choses surnaturelles, bizarres, tout ça, elles sont filmées avec un naturel qui est impressionnant. En fait, on ressent ce truc.
Jamais tu dis, tiens, c'est un film fantastique ou ah, c'est un symbole d'une métaphore de quelque chose.
Non, il y a une vraie légèreté aussi, je trouve. C'est
très léger et du coup, il y a des trucs très surprenants. Il y a notamment une chanson magnifique, Yamayo Yamayo, pour ne pas la nommer, mais
Vous la verrez pendant le film, ça, voilà, se vit.
C'est un truc que vous allez, voilà, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que la chanson arrive. On pourrait se dire bon, allez, c'est un truc bizarre en plus, voilà, donc passer à côté du truc. Mais en fait, pas du tout. On est étonné, mais on n'est pas étonné à la fois. C'est très, c'est très intéressant, quoi. Il y a un côté homogène dans la bizarrerie.
Moi, il y a un truc que j'aimerais bien souligner, parce qu'on, je pense qu'on l'a pas assez dit, mais c'est super marrant. En fait, c'est une vraie comédie.
C'est hilarant.
C'est
hilarant et c'est poétique. Il y a une séquence, vous verrez, qui est une séquence de film d'animation qui est entièrement bruitée à la bouche par une quinzaine de personnes.
Extraordinaire.
Comme ça. Et c'est d'une poésie folle, quoi.
Ouais, et par rapport à ça, je pense qu'il y a énormément aussi de références tout au long du film. On n'a peut-être pas forcément la meilleure culture pour toutes les dénicher, mais par rapport à la séance d'animation, des moments où j'ai vu en fait le décompte qui lançait en fait le film, on va appeler ça un mini-film, il y avait une grosse référence au studio d'animation Madhouse, et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est Madhouse, du coup, en fait, c'est vraiment le début de Madhouse.
Parce que le réalisateur Katsuhiro Ishii, a travaillé et travaille avec Madhouse. Il a conceptualisé, je crois qu'il a scénarisé un film qui s'appelle Redline. C'est lui qui est responsable des séquences animées dans Kill Bill volume 1. Voilà, il travaille avec Madhouse depuis longtemps, donc je pense qu'il y a un clin d'œil aussi.
Tu sens que le goût du thé, c'est vraiment son film de cœur. Il a mis toutes ses idées, toute sa personnalité dedans, je suppose. En tout cas, il a projeté tout un tas de choses, un message, un fil rouge. Et c'est une somme, c'est un film somme, une espèce de symbole. Mais j'ai vraiment, sans rien connaître de ce type-là, parce que j'ai pas mal de lacunes en cinéma asiatique, mais sans connaître ce type, tu sais que c'est son film tout, quoi.
Non, mais pour revenir sur Gondry, c'est vrai que les films de Gondry, t'as l'impression qu'à chaque fois c'est vraiment un truc ultra personnel qui te délivre. Et là, ça fait peut-être aussi, ça fait référence à Gondry. Enfin, on peut penser à Gondry un peu sur les mêmes effets, sur le fait que ça soit très personnel, quoi. On a l'impression de voir des choses intimes, en fait.
Ouais,
pour avoir vu d'autres films de Katsuhito Ishii, il a fait justement Funky Forest 2, qui est là pour le coup un vrai film à sketch qui dure 3 heures et tout ça. Et c'est pour le coup, c'est limite indigeste, quoi, parce qu'il y en a vraiment trop. Il y a des trucs très drôles, il y a des trucs un peu.
Là, c'est 2h10, il me
semble. Là, c'est 2h20. C'est 2h20 et ça passe extrêmement vite.
Ah ouais, ça passe tout seul.
Et surtout, c'est homogène, quoi. Alors, des fois, il se lâche, justement, quand il fait Funky Forest, il fait des trucs hyper conceptuels, des trucs très bizarres et tout ça, des trucs très drôles, des trucs moins drôles, des trucs un peu trop longs, un peu tout ça. Il teste plein de trucs.
Bah, c'est toujours le principe du film à sketch, mais je trouve que pour le goût du thé, pour essayer de finir un petit peu dessus, tu ressens pas la fameuse phrase qu'on dit tout le temps sur le film à sketch, à savoir, forcément, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des. Ouais. Là, tout est homogène, il y a ce fameux fil rouge qui est très un fil rouge de fond, hein, pas forcément narratif ou de forme, qui est là pour bien mettre, pour coller les morceaux ensemble. Et j'ai pas eu la sensation d'en avoir un mieux que l'autre, en fait. C'est un film à sketch, mais c'est pas le film à sketch qui. C'est pas le genre, c'est pas ce qui le définit. Il passe par cette case-là, mais il va un petit peu au-delà.
Je pense que la vraie force pour conclure de ce film-là, c'est que c'est un film qui ressemble à aucun autre film.
Oui, bien sûr.
C'est assez impressionnant, quoi.
Bah, c'est ce qu'on propose à chaque fois. C'est ce qu'on essaye de proposer, en tout cas dans les coups de Projo. On l'avait fait la émission dernière sur le cheval de Turin. On le fait évidemment sur celui-ci avec le goût du thé. C'est différent, c'est un autre angle, mais c'est toujours des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et notamment des films qui sortent des sorties de la semaine, puisque c'est parti, on y va. Attaquons le calendrier présent. Nous sommes donc partis pour les sorties de la semaine. On commence avec un film français, Revenge, ou Revenge, comme vous voulez. C'est réalisé par Coralie Farja, c'est son premier long métrage, me semble-t-il. C'est avec Mathilda Lutz, Kevin Jensen et Guillaume Bouched. Florian, tu vas t'occuper de nous le pitcher. C'est un film de genre, c'est un film d'horreur, c'est un film de rape and revenge. On sortira un petit peu la définition de ça plus tard. De quoi ça parle, objectivement?
Alors, Revenge, c'est l'histoire de trois amis qui sont chefs d'entreprise, des gens qui sont assez riches, qui se retrouvent tous les ans pour une partie de chasse. Et sauf que cette année, une des personnes a décidé d'emmener sa maîtresse avec lui durant ce fameux voyage. Pour ça, ils sont arrivés un petit peu en avance par rapport aux autres pour être tranquilles. Manque de peau, les deux autres amis se sont pointés à l'improviste en avance et les ont dénichés un petit peu dans leur cocon. Donc la dame devant partir le lendemain, s'ensuit une série d'événements assez cocasses.
Ça y est, il a perdu toute objectivité. Il a tenu 30 secondes, c'est très bien. C'est signalons que c'est une espèce de villa complètement pop qui est perdue dans le désert californien. ou en tout cas un désert, peu importe, et que cette fille-là a été victime de viol par deux des trois hommes. Elle va essayer de s'échapper, elle va essayer de se venger, d'où le titre.
C'est ça, parce qu'elle est laissée pour morte dans le désert suite à une altercation. Et à la suite de ça, donc elle va revenir pour se venger de ses agresseurs.
Sur la forme, vous allez vite le comprendre en regardant le film, si vous ne l'avez pas déjà compris en regardant l'affiche. C'est un film qui est volontairement, en tout cas je l'espère, enfin, un film est toujours volontairement, j'espère, dans son idée, pop et acidulé. C'est très coloré, il y a de la lumière stabilo partout, et on a un personnage principal donc, qui s'appelle Jean. Qui est un peu l'archétype de la petite bimbo. Elle a son espèce d'énorme étoile rose en boucle d'oreille qui est son signal, qui est son signe, pardon, pendant tout le film, pendant toute la narration. Et elle va, voilà, va être victime d'une énorme violence. Et cette violence-là, elle va essayer, et ça va être le propos du film, de la retourner contre ses agresseurs. Mais en termes formels, c'est là où on va déjà ne pas être d'accord. J'ai trouvé ça vachement cohérent et plutôt couillu dans ce que ça propose. Vous y avez vu pas mal de choses dérangeantes, et c'est là où on va clairement comprendre que Quentin et Florian ne sont pas trop de la team pouce en l'air.
Bah en fait, bon moi je me suis dit, bon j'ai vu l'étalonnage du film, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de très coloré, ça fait très Michael Bay et sans côté péjoratif, parce que chacun fait ce qu'il veut. Non, il y a un côté, voilà, en film de désert, c'est très coloré, c'est très pop, c'est renforcé par la BO du film qui est, que je trouve personnellement à vomir, mais qui du coup amène une cohérence.
C'est quoi du coup le style de musique ?
C'est un genre d'électro un petit peu industriel, c'est-à-dire qu'en fait c'est un genre de Nine Inch Nails, mais acidulé quoi. Ouais. Donc c'est un peu, c'est pas terrible.
Alors mais... je cale ça là, mais la musique originale a été composée par Rob, qui a fait de plutôt bonnes bandes originales, pardon, qui a fait notamment, qui a fait Maniac de Calhoun.
Oui d'accord.
Qui était pas mal, et qui a fait aussi d'autres films.
J'ignorais, pour le voilà. Coup. Mais du coup ouais, il y a tout un côté pop quoi qui est renforcé donc par une couleur, voilà, il y a la baie vitrée, le truc de la baie vitrée, il y a une porte sur deux qui a une couleur flashy, tout ça, enfin c'est à dire que dans la forme il y a un côté très américain,
oui, ça a été tourné aux États-Unis,
trop américain d'ailleurs, et parce qu'il y a des personnages qui parlent anglais tout ça et qui des fois parlent français, mais c'est pas bref, c'est autre chose. Moi en fait je trouve qu'il y a un vrai problème dans ce film, mais vraiment c'est que c'est techniquement et narrativement c'est pas bon, il y a des incohérences mais c'est impressionnant quoi.
Pour resituer, on part rapidement dans des situations assez extrêmes où bah forcément il va y avoir du sang et des larmes et de la sueur et voilà. beaucoup de sang. La chasse va se faire dans un espèce de quasi désert, donc ça va se faire à moto, à voiture, à pied, sur des cailloux, sur des lacs, etc. Et effectivement, vu qu'ils sont pas nombreux, ils ont tendance, les rencontres entre chacun, vous vous rendez bien compte que la nana va venir à bout de chacun de ses agresseurs, un petit peu comme dans un jeu vidéo, hein, niveau 1, oui, niveau 2, niveau 3, etc. C'est pas du tout, encore une fois, on n'est pas du tout péjoratif, on décrit seulement le procédé. Mais il y a aussi, on le verra sur le fond, on va arriver sur le fond au bout d'un moment, mais je pense que le côté acidulé, le côté pop et les incohérences sont pas très graves, puisque l'idée c'était de présenter une idée justement. C'est de présenter des archétypes pour mieux les défendre. Et effectivement, c'est un film à archétypes qui peut-être s'y appuie un petit peu trop.
Moi je pense que, sans vouloir être vindicatif, je pense que c'est une impasse en fait de dire ça, parce que moi c'est un truc que j'ai pu lire sur internet, on a dit oui mais ça c'est du second degré. Je dis non, il y a un moment, enfin, il y a des incohérences qui sont quand même. Il y a des trucs qui, enfin, on m'a dit non mais ça c'est du second degré. Bon, il y a une scène à un moment que je trouve assez impressionnante, c'est le moment où en fait elle a une plaie ouverte qui d'ailleurs n'a aucun sens, mais elle a une plaie ouverte dans le ventre, ouais. Et en fait elle cautérise sa plaie avec une canette découpée qu'elle met sous le feu, tout ça, bref. Et en fait il y a un truc qui va venir s'imprimer sur son ventre, alors que c'est techniquement impossible puisque la canette elle est plate et qu'en plus elle est à l'envers et que le truc est à l'endroit. Enfin bref, il y a vraiment des trucs, c'est du faux raccord quoi. Et c'est limite du faux raccord parodique. Et il y a un moment je me suis dit, Il y a des gens qui parlent de ça et qui disent oui, c'est du second degré. Et moi, je me dis non. Tel que c'est mis en scène, c'est extrêmement premier degré. C'est assumé, c'est un choix assumé. En plus, ils ont fait le truc de, en fait, c'était un rêve. Et du coup, on se dit, mais oh, c'est normal, c'était un rêve, c'est pour ça que c'est incohérent. Et en fait, elle se réveille 4 fois, parce qu'ils le font 4 fois. Et quand elle se réveille au bout de la 4e fois, elle a toujours le truc. Et je me suis dit, mais non, quoi, c'est pas possible.
Bon, Florian.
Moi, ce qui m'a assez dérangé avec le film, notamment au niveau de la forme, c'est que le côté pop et le côté coloré, et, en fait, c'est too much. C'est que ça colle pas. Il y a vraiment un truc qui colle pas. Et même par rapport aux propos, on va y venir, mais je trouve qu'il y a un décalage qui est vraiment gênant. Ouais. Là où dans Le Goût du Thé, on avait un décalage qui, lui, pour le coup, marchait. Là, je trouve que ça fonctionne pas. Et surtout par rapport à ça, en fait, les mises en situation, on est toujours dans le cliché. On le sait et on se dit non, ils vont pas le faire. Et évidemment, ils le font, mais à chaque fois.
C'est gros sabot.
C'est trop gros, en fait. Il y a pas de subtilité. Il y a pas de choses, en fait. C'est du gros, c'est du sale, c'est du lourd. Et je trouve que justement, en fait, par rapport au sujet et par rapport à ce que le film veut et devrait montrer.
Bah alors, le film évidemment a un propos extrêmement féministe. L'idée étant d'une grosse revanche sur le patriarcat pour être très 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 général et de montrer que une femme est propriétaire de son corps et que elle fait ce qu'elle veut à peu près et c'est pas parce qu'elle est définie comme bimbo que
elle est condamnée
à le rester et ça passe par le sang et c'est une violence qu'elle doit se faire un à elle-même et deux aux représentants de ceux qui l'oppressent pour être enfin elle-même et pour être voilà pour jouer de son corps comme elle veut. Bon, et jouer de son esprit d'ailleurs comme elle veut. Le film marche pour ça. C'est-à-dire que évidemment c'est gros sabot, mais parce que je pense Coralie Farja veut reprendre ces archétypes, les pousser à 20 000, d'où l'acidité. Il faut les montrer en énorme pour leur mettre un énorme coup de poing dans la gueule. C'est comme ça que je l'ai ressenti.
Bah moi en fait j'aurais aimé le ressentir comme ça, c'est ça le truc. C'est que je me suis dit, ok, on est dans le grotesque, on y va. Alors petit point, même point positif, les effets de maquillage gore sont extrêmement convaincants. Enfin, je trouve que ça marche très très bien. Il y a un vrai ressenti, il y a une complaisance dans le fait de montrer les trucs gore et tout ça qui est inhérent un petit peu au genre, donc c'est pas un souci. En fait, le problème, c'est que quand on veut jouer sur des clichés, si on veut pouvoir jouer sur des clichés et donc les contourner, il faut le faire, quoi. Il faut ironiser dessus, il faut mettre en scène des personnages ridicules. Mais en fait, tout était premier degré, quoi. Les personnages, bon, je veux dire, je suis pas acteur, mais ça jouait vraiment pas bien. Il y a un truc, c'est les mecs en faisaient vraiment beau, vraiment too much. Je pense que le gars qui avait un accent anglais et qui parlait, du coup, qui avait des trucs... qui parle en français, ça marchait pas. Il y a des gens chez qui ça marche, mais là, ça marchait juste pas du tout. Les autres personnages, ils sont archétypaux, c'est-à-dire que les violeurs, bah, évidemment, qu'ils sont moches et qu'ils sont gros. Enfin, il y a un truc, sauf le grand méchant qui, lui, est très beau, machin. Enfin, en gros, je pourrais en parler des heures, des incohérences et des problèmes, des choses qui font que ce film ne fonctionne pas. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai souci. J'ai l'impression que Coralie Farja n'a jamais vu de Rape and Revenge de sa vie, quoi. Je veux dire, moi je suis pas un fan de ce genre, j'ai vu Les Chiens de Paille, j'ai vu I Spit on Your Grave, j'ai vu l'original de 78, j'ai vu La Dernière Maison sur la Gauche, bon voilà, je comprends ce que c'est que le Rape and Revenge, je comprends les codes, je comprends les dérives aussi, parce que on dit que c'est un genre qui est complaisant et qui est voyeuriste, je suis assez d'accord avec ça. Là, ça n'avait rien de neuf, ça n'apportait rien, hormis du ridicule quoi, vraiment, c'était... Je me suis dit, est-ce qu'on va faire un truc viscéral comme I Spit on the Grave qui était sorti en 2010, qui était vraiment pas mal du tout pour le coup. Là, on est vraiment tombé dans des clichés, on est tombé dans de la facilité, quoi. Dans une facilité d'écriture et de mise en scène qui, moi, m'a déconcerté.
Moi, ça m'a fait penser un petit peu... Alors, gardez bien en tête que je vais m'expliquer sur la comparaison que je vais faire tout de suite, là. Mais il y a le même... J'ai entendu le même propos et la même appropriation que j'ai entendu sur Wonder Woman. Je m'explique. C'est-à-dire que, pour moi... J'ai vu Wonder Woman et je me suis dit c'est pas un film féministe parce que la nana fait comme les mecs ça change rien en fait, c'est une militaire comme les autres et elle tue des soldats aveuglément pour le patriotisme comme les autres. Et on m'a répondu avec justesse, si on y pense, oui mais l'idée c'est pas d'avoir quelque chose d'autre ou d'avoir un personnage féminin autre ou d'avoir des personnages féminins qui font leur petite vie ou leur petite mission, c'est d'avoir justement cette appropriation et de dire bah ce qu'on a vu les hommes faire pendant 100 ans au cinéma, une femme peut le faire exactement pareil, et c'est pour ça que ça marche. Et je pense que Revenge peut être perçu positivement dans ce sens-là. C'est-à-dire que est-ce que nous qui sommes habitués à un retournement de ces codes-là, à savoir une nana qui s'en prend plein la gueule et qui se fait avoir, etc., et qui au final arrive sanglotante, le t-shirt à moitié déchiré, à s'en sortir, est-ce que là le fait est que c'est le mec qui se retrouve à poil dans un bain de sang, qui s'en prend plein la gueule parce que je comprends la version, et je comprends que c'est pas forcément que l'inversion soit faite autrement, c'est précisément parce que l'inversion est prise dans les mêmes codes que ce qu'on a eu côté masculin depuis 50 ans de films de genre, que c'est ça qui plaise. Voilà, c'est un film, pour être tout à fait honnête avec vous, que je pensais pas défendre autant ce soir. C'est un film, moi, Rape and Revenge, c'est pas un genre dans lequel j'ai beaucoup d'attrait non plus. C'est un film que j'ai trouvé formellement bien, j'ai bien aimé le propos. Après, c'est pas un film qui m'a marqué moi, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être contrairement à vous, je comprends là où ça veut emmener, et c'est précisément par tous les écueils que vous avez dit que ça peut être intéressant dans son renversement, en fait.
Bah, par rapport au code, le problème que j'ai aussi, c'est que à un moment, il faut choisir. C'est soit tu les suis, soit tu les renverses, et surtout, tu essaies de te cantonner au code du genre, tu n'as pas commencé à les piocher un peu partout et à essayer de vouloir faire quelque chose, et on en fait toujours même, c'est vouloir en faire trop. Pour moi, ce film, il renverse certains codes, il va en piocher d'autres, et j'ai vraiment l'impression que il y a certains moments, on est à la limite du nanar, quoi. On est entre le mauvais film et le mauvais nanar.
Mais ça, c'est que...
C'est qu'on ne sait pas, et je trouve que c'est pareil, ça colle pas au propos, et pour moi, j'ai l'impression que c'est un mauvais film qui aurait voulu être un bon nanar. Avec un propos qui est trop sérieux pour coller au nanar.
Bah quand t'es pile entre le mauvais film et le bon nanar, c'est une zone grise qui est pas très agréable.
Et surtout, même pas, pour moi, ce serait même pas un bon nanar parce qu'il colle pas au code du nanar au final. Donc c'est. T'as un mélange de beaucoup de choses, finalement, qui sur lequel tu peux pas vraiment te raccrocher. Avec un truc qui sait pas trop où il va. Et. Bon, voilà, c'est.
Ça a divisé, en tout cas je pense que nous écouter, ça changera pas grand chose à votre avis s'il est déjà fait ou s'il va être fait. C'est un film vous pouvez faire un avis vraiment que si vous allez le voir, donc quelque part on n'a pas parlé dans le vide, on a chacun exprimé nos angles. C'est un film qui, je pense, est de ce type, de ce genre de film irréconciliable qu'il est compliqué généralement de chroniquer.
De toute façon, un film qui divise, c'est un bon film.
Quelque part.
Bah oui. Alors.
Mais alors moi, je voudrais juste conclure juste sur un tout petit truc, c'est que moi, je pense que le féminisme et le patriarcat, le virilisme, tout ça, c'est des sujets extrêmement importants. J'ai pas dit film important, attention, j'ai dit des sujets extrêmement importants qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on y mette du talent et qu'on fasse des choses, les choses bien. Si on fait un film aujourd'hui et qu'on le dit c'est bon, c'est un film girl power parce qu'il y a une fille qui tue des mecs, qui est trop forte, comme dans Alien 2 en 86, bon c'est pas grave, mais bref. Je pense qu'il faut pas, comme j'ai pu le voir, hurler et dire que ce film est génial parce qu'il y a une femme, machin truc. Je pense que c'est un sujet qui mérite des films de qualité, et pour moi Revenge il passe à côté du truc, quoi.
D'accord, je comprends tout à fait. On va passer à du plus léger, on va passer à Crowman, film d'animation. C'est Nam qui s'y est collé, c'est réalisé par Nick Park et c'est du studio Artman. Nam, Crowman, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que c'est un petit peu plus léger que Revenge.
Oui. Tout à fait. Alors Crowman se déroule à l'époque où il y a des dinosaures, des mammouths et des Cro-Magnons qui peuplent la planète. Quelques générations après qu'un météore ait tué les dinosaures, les Cro-Magnons ont quand même survécu. Voilà,
super. Bonne nouvelle pour nous.
On n'est pas des Cro-Magnons.
Pardon.
Non, on n'est pas des Cro-Magnons. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Cro-Magnons vivent dans une zone isolée, en fait le centre du cratère. Avec des arbres et de la nourriture et de la végétation, etc. Et des animaux à chasser, surtout des lapins, ils chassent des lapins.
Et ça reste quand même vachement plus simple que les mammouths.
Et en fait, et le reste de l'univers, ce qu'ils appellent les Badlands, qui sont des terres dévastées, désolées, avec des monstres gigantesques et des volcans. Et de ces terres viennent les nouveaux habitants, les nous. Donc c'est pas des Cro-Magnons, parce qu'ils s'appellent pas humain encore.
Okay.
Et ils ont découvert la puissance du bronze. Voilà.
D'accord.
Donc les Cro-Magnons de l'âge de pierre se font chasser de leur terre.
Ok.
Et ils vont devoir récupérer leur terre en utilisant le sport traditionnel qui vient du fin fond de la préhistoire. Le football, c'est un film anglais, hein, je précise.
D'accord. D'accord. Alors, ah oui, on d'accord. précise que c'est du studio Aardman, du coup, un studio qui a fait, voilà, c'est Gromit, Chicken Run.
Oui, donc c'est de la très belle animation en image, image par image, en pâte à modeler.
Exactement.
Avec des très bonnes blagues. Alors, c'est vraiment pour tous les âges, hein. Il y a ouais. des certaines blagues.
Je suppose qu'il y a des blagues sur le fromage. Ouais,
de toute façon, oui.
Sur le thé.
Non, il y a plus. Il y a quelques blagues caca.
ouais, bah, précisons, mais ça.
Mais après, il y a des vannes qui sont assez marrantes par rapport au foot, des bons jeux de mots. Ouais. Mais
vu en VF ou en VO?
VO. Okay. D'ailleurs, c'était un petit peu dommage. Alors, j'ai vu au MK de bibliothèque, séance ouais. de 20h. Le film était en VO. Et c'était un peu dommage pour les parents qui sont venus avec leurs enfants voir le film.
Ah ouais, c'est étonnant. Il en faut pour nous aussi. En VO, c'est Eddie Redmayne et Tom Hiddleston qui font, et Maisie Williams qui font les voix originales. Ah, en VF, c'est Pierre Ninet notamment.
Voilà. Et donc c'était très sympa, très léger. C'est plutôt court. Le film dure 1h30, mais bon, c'est un film d'animation, donc le générique fait un quart d'heure.
Moi, je suis pas étonné parce que c'est vrai que les productions Aardman. Ça a toujours, ça n'a jamais déçu quoi.
Oui, c'est ça.
Il y avait des fois des soucis.
Gromit,
c'est Gromit.
Chicken Run, c'est incroyable.
Le lapin garou. C'est...
Et puis oui, ils ont toujours cette manière de te mélanger différentes techniques, que ce soit. Ils jouent beaucoup avec la perspective, ils aiment beaucoup faire ça. Des jeux de lumière superbes avec des mouvements, c'est vivant, c'est super vivant.
Je pense parler au nom de tout le monde, mais en vrai, regardez un making-of. Regardez un making-of de Wallace et Gromit ou de Chicken Run, vous allez halluciner. Quoi. C'est impressionnant.
Vous verrez pourquoi ils sortent un film tous les 3-4 ans.
Ouais. mais ça, c'est typiquement le rythme anglais, j'adore ça. Ça se retrouve dans les séries aussi. Ils mettent 3 plombes à faire une saison ou à faire un film d'animation ou à faire un film, mais ils le font bien. Et c'est ce qu'on demande. Moi, je demande pas à ce qu'on m'abreuve de séries et de contenu tous les 8 mois. Une fois tous les 5 ans.
Il est
c'est très
de...
bien. Non, mais on a tellement on a tellement de contenu différent que quand tu fais tout.
Je suis d'accord, mais. Quand la dernière saison de Luther fait 2 épisodes.
C'est vrai. Luther, on va pas digresser longtemps, mais Luther, ils ont complètement abusé.
Ils ont un peu craqué là pour le coup.
C'était n'importe quoi.
Voilà. Cro-Magnon, très bien.
J'ai l'impression qu'il y a pour les grands, il y a pour les petits, il y a pour les cinéphiles, il y a pour les.
Ça fâchera personne, ça plaira à tout le monde. Voilà.
Et ben voilà. Pourquoi les gens font des revenge quand on veut faire des Cro-Magnon? C'est quand même beaucoup plus sympa. Gaspard va au mariage. Ce n'est pas une annonce que je fais à mon cousin, c'est un film réalisé par Anthony Cordier, c'est son 3e long métrage. C'est avec Félix Moiti, Laetitia Doche et Christa Terret. Laurent, c'est à toi de pitcher. On t'a pas entendu depuis longtemps, je veux écouter ta douce voix.
Merci. Du coup, c'est l'histoire de Félix Moiti, slash aka Gaspard, qui va au mariage de son père, qui a décidé de se remarier. Et sur le chemin du mariage, il décide de trouver une jeune femme. Pour la faire passer pour sa femme, pour
sa
concubine en tout cas, du coup pour se prêter au jeu du quiproquo. Voilà.
Tout à fait.
Du coup, il arrive dans cette famille, du coup, c'est à cheval sur vraiment deux thèmes. Le thème romance-comédie-romantique avec cette Laetitia Doche, nouvelle compagne improvisée, et sur le thème film familial, film sur la famille. Où du coup il retrouve son frère, retrouve sa sœur, retrouve son père, sa future belle-mère.
Sachant que le contexte est un petit peu particulier.
Oui, parce que ça se passe dans un zoo, au milieu de la campagne française, au fin fond des champs. Et
le zoo de Beauval, pour ceux qui reconnaissent. Moi j'ai reconnu tout de suite.
Voilà, pour les vacanciers.
Donc c'est une comédie qui fait partie de ces comédies françaises qui essayent de mettre un petit peu de tout et beaucoup de tout, ce qui peut paraître un petit peu lourdingue à force.
Ouais, moi j'ai trouvé que le film était vachement en montagne russe. Il y a des fulgurances à des moments sur des scènes, sur des dialogues, sur certains personnages, mais il y a des moments où on se fait clairement chier et il met vraiment tout et n'importe quoi. Il y a un ramassis de choses qui n'ont rien à faire dans le film, sur des thèmes, sur des sujets. Où on se demande mais pourquoi ce personnage fait ça, ça lui colle pas du tout. Et moi j'ai eu l'impression en fait de voir un premier film, de voir un réalisateur qui fait son premier film, qui a plein d'idées dans tous les sens, qui se dit cool, je vais tout mettre, et qui au final tout ne colle pas forcément parce que tout peut pas aller ensemble, c'est ce qui est logique. Et j'ai l'impression qu'il s'est pas retenu en fait là-dessus. Et d'avoir appris que c'était pas son premier film, parce que moi pendant que je regardais le film, j'avais vraiment l'impression que c'était son premier film. Et quand je l'ai appris après, que c'était son 3e film, mais donc les deux premiers j'avais pas vu, il y a Happy Few et je sais plus le. le second.
Avec une douche.
Ouais, après la douche ou quelque chose comme ça. Et ben j'étais encore plus déçu parce que je me suis dit, bah merde, en fait, c'est pas son premier film, c'est son troisième. Et j'ai presque l'impression que c'était des écueils auxquels un cinéaste qui avait fait déjà deux films pouvait totalement éviter. Quoi.
Moi, il y a deux choses qui m'ont gêné dans le film. C'est la première, c'est que c'est une comédie qui cherche tellement à être un des Français, slash à côté, slash un peu intelligent, que ça oublie d'être une comédie. Et ça me gêne toujours un petit peu quand on... Même si on met toujours une distance entre ce que le marketing nous dit et ce qu'on voit, mais c'est quand même une comédie, je pense, dans l'âme, dans l'écriture, etc. Et ça t'arrache rarement un sourire. Il faut la force de Guillaume Gouy, notamment, qui joue le frère de Gaspard, Félix Moati, pour essayer de tirer un petit peu quelques situations qui marchent. Mais c'est une comédie qui fait pas bien sourire, quoi.
Bah moi, j'avais vu la bande-annonce, pour le coup. Bon, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce quand j'étais allé voir Pentagon Papers, je crois. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que c'était l'archétype de la bande-annonce qui te dévoile tout le film. Non, il y avait genre toutes les séquences et ces trucs-là, et tu te sentais que le truc était rempli à ras-bord et que ça n'avait pas vraiment de sens. Quoi. Bah,
en fait, il y a aussi, comme dit Robin, regardez, nous on est différents, nous on fait des trucs originaux. Et c'est un peu ça tout le film en fait.
Ouais.
Genre, notamment, il y a des scènes de nudité, regardez, nous on se permet de mettre des mecs à poil.
Et scènes très esthétisantes, mais... ralenti, musique électro-douce.
Et c'est juste, en plus, ça arrive une fois, ok, deux fois, trois fois, enfin, d'un moment, ça arrive tout le film, quoi. Ouais. Enfin, des scènes de nudité, au début, je me suis dit, ouais, ok, il va le choquer un peu. Et en fait, non, ils sont vraiment tout à poil.
Il y avait un mec sur Twitter qui avait interpellé le réalisateur qui dit, ok, j'ai bien aimé le film, mais pourquoi ils sont tout le temps à poil? C'est vrai qu'ils sont souvent.
Ouais, c'est. Enfin, du coup, ça devient dérangeant parce qu'on dirait que le mec cherche à souligner son originalité, ouais, et du coup, bah, tu passes juste pour un mec un peu lourd, quoi.
Bah, ça, tu vois les ficelles. Et ça, à la limite. Par contre. Ce qui m'a gêné aussi, la deuxième chose, c'est que le film est impatient au début. C'est-à-dire qu'il cherche tellement, il plonge direct dans des dialogues un peu bizarres, un peu pétés, mais tu sens qu'il veut raccrocher une narration un peu plus classique, notamment ce qu'on disait sur les relations familiales, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et ce qui fait que le film est très très décalé et un petit peu trop pressé au début. Il te met plein de ces scènes esthétisantes, plein de ces idées qui font très petit parisien dans la campagne. Ouais, il y a ce côté-là aussi, on va pas le souligner.
C'est quelque chose qui revient souvent, mais t'as l'impression que c'est des parisiens qui filment la campagne et ça colle pas du tout. Quoi,
ouais,
parce que
pas trop.
Au niveau des dialogues, au niveau des modes de vie, même au niveau des acteurs, moi j'avais l'impression d'avoir des parisiens qui pendant 5 mois ont été au fin fond de la Creuse.
C'est factice,
ils étaient ravis, mais ça fait totalement faux. Quoi.
Ouais, enfin,
la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils parlent, tout, tout est faux. Quoi.
Voilà. Par contre, ce que le film arrive, pour remonter un petit peu sur une note plus positive, ce que le film arrive plutôt bien à faire, je trouve, c'est justement dans ce milieu, là où dans n'importe quelle autre comédie, ça serait un ventre mou ou pas grand-chose. Là, il se permet d'aller vers les relations familiales et d'explorer ça. J'ai trouvé, alors on n'est pas vraiment d'accord là-dessus avec Laurent, mais j'ai trouvé la relation entre Gaspard et Christa Torre, donc sa sœur, assez intéressante, quasiment touchante. Sur certains moments. Ouais, non, mais.
Quasiment, parce que
ça parle d'inceste, hein, c'est pour ça qu'il parle de
ça. Justement, je trouve. La question de l'inceste est vachement bien traitée et j'ai été étonnamment sensible à cet axe-là, cet arc-là du film. Ensuite, effectivement, il n'empêche que la fin retourne dans sa complaisance du début et retourne. Et je comprends, ça me fait mal à la gorge de dire ça, mais je comprends que quelqu'un un peu d'extérieur dise avec toute la espèce de miel du monde, genre ah c'est un film de bobo. Bah ouais, c'est un peu un film de bobo, Gaspard va au mariage. Et autant je déteste le terme, je déteste l'expression et je déteste ceux qui l'utilisent. Mais ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire que...
Dommage.
T'as peut-être un peu raison quoi. Bah pas forcément dommage, est-ce qu'il pouvait y avoir mieux là sur ce sujet-là et sur ce traitement-là?
Question, est-ce que le fait que ça se passe dans un zoo, ça amène quelque chose ou pas du tout?
Ah si, quand même.
Ouais, c'est ça. Enfin, ouais.
C'est, ça là-dessus, il y a plutôt des avantages.
Il y a un truc
avantages.
Avec les animaux, je sais
y
pas.
Il y a plein de trucs avec les animaux, ouais. Il y a plein de scènes avec les animaux et tout, et là-dessus, c'est plutôt intelligent.
Je veux dire, même sur le propos, quoi.
Ouais,
sur
non,
le,
carrément.
Sur le fond et tout,
Si.
Après, ça le... Si tu vas chercher jusqu'au bout, peut-être,
oui, voilà.
du côté un peu spéciste, ou alors, est-ce que c'est bien les zoos, est-ce que c'est pas bien les zoos?
Il pose un peu la question.
Il pose la question, il répond mollement.
Les gens viennent plus trop.
Ouais, mais il répond mollement.
Ouais, mais c'est
mais
pas
mollement,
grave.
Il prend pas trop. C'est, de, pas, ouais, c'est ouais. pas le sujet du film. En
c'est
fait.
Pas oui, le c'est sujet pas du sujet. Film, mais la façon dont il l'aborde, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt intelligent. D'accord. Et il y a une petite position. C'est pas.
On verra tout à l'heure.
C'est pas le film, mais c'est quand même correct là-dessus. Il y a pas grand chose à dire, je pense.
On verra tout à l'heure si le film mérite un déplacement ou non dans cette neige qui aura sûrement fondu au moment où vous l'écoutez, sauf si vous êtes très rapide à nous écouter. Florian, on va se diriger vers toi. Non pas que tu as vu Gaspard va au mariage, mais tu as vu un documentaire qui est sorti début février de Stéphanie Guillard qui s'appelle The Ride, et il me semble que ça a quelque chose à voir avec les Amérindiens.
C'est ça. The Ride, c'est un documentaire donc sur en fait, une troupe, on va pas le dire une troupe, on va plutôt dire sur le peuple des Sioux, lequel tous les ans effectue une chevauchée. Donc savoir, c'est un petit groupe de personnes, au début ils sont une trentaine, qui fait voilà toute une épopée jusqu'à du Dakota du Nord jusqu'au Dakota du Sud, jusqu'en lieu qui s'appelle Wounded Knee, qui est le lieu en fait où quelques siècles auparavant a eu lieu le massacre de leurs ancêtres par l'armée américaine et notamment par le 7e de cavalerie, ce qu'il le répète beaucoup durant le documentaire.
voilà. C'est bien, t'as retenu, c'est vachement précis comme pitch.
Voilà.
Du coup, l'angle, quel est-il ?
C'est vraiment une espèce d'apprentissage. Voilà. C'est vraiment un apprentissage, c'est un travail sur soi et c'est surtout un travail de mémoire par rapport justement à ses ancêtres qui se sont fait massacrer et surtout à toute la culture en fait, toute la culture native indienne qui se perd de plus en plus au fil du temps aux États-Unis. Notamment en grande partie à cause des lois américaines qui sont pas très sympas par rapport à ça. Mmh. Et justement, les personnes en fait qui organisent cette chevauchée, eux justement veulent inclure en fait beaucoup de jeunes Indiens, pour déjà d'une qui ne reste pas à rien faire parce qu'on a un taux de chômage qui est assez incroyable parmi ces populations là. Et justement pour leur transmettre ces cultures, pour leur transmettre aussi ces valeurs, et pour essayer en fait de les faire grandir et de leur faire comprendre un peu que la vie c'est pas que ça et que la vie ça peut être quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, et ça peut être quelque chose de plus indien.
Et sur un sujet assez grave, il n'empêche que la réalisatrice arrive à donner un petit côté à la fois feel good et mélancolique.
C'est ça, ouais, j'étais un peu... je savais pas trop comment me placer à la fin de la séance. Et ce qui est assez intéressant, justement, c'est que c'est un documentaire qui se veut très intimiste. On va vraiment suivre les personnages, notamment ces jeunes qui sont intégrés à cette chevauchée, où on va les suivre au quotidien, on va avoir un petit peu leur ressenti, on va les suivre, on va voir. Du coup, ils vont intervenir par moment. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir la réalisatrice à la fin de la séance qui a répondu à quelques-unes des questions. Et elle a dit cette phrase qui m'a vachement interpellé, c'est qu'elle a dit je voulais avoir leur histoire qui n'est pas forcément l'histoire tout à fait exacte. Et en fait, elle voulait avoir leur ressenti par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire et par rapport à ce qu'ils ressentaient par rapport à ça, et pas forcément ce qui s'était réellement passé.
Embrasser la partialité de
ce
groupe.
C'est ça. Et je trouve qu'il y a un vrai côté, il y a une vraie candeur par rapport à ça. Mmh. Et voilà, et c'est des gens qui font ça, c'est un peu un devoir de mémoire, ils sont là pour apprendre, pour transmettre. Okay. Ils font ça dans la bonne humeur, il n'y a aucune rancune même par rapport aux gens, et je trouve que c'est génial, et en même temps le sujet qui est traité est quand même un sujet qui est très grave. Et au final c'est pour ça, c'est un feel good documentary mais avec un côté un peu mélancolique où on se dit ouais mais quand même voilà.
En termes de mise en scène du coup, comment ça se passe, est-ce que ça colle au personnage, est-ce que plutôt on est retiré, on a des grands panoramas où les personnages se déplacent, se meuvent, comment ça se passe ?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a donc énormément de... Enfin, toute la chevauchée, du coup, se passe à cheval. Par contre, il n'y a aucune scène qui est filmée à cheval. Donc je peux comprendre la volonté et surtout la difficulté à mettre en scène. Et là où, au final, je trouve qu'il y a peut-être un petit problème par rapport à ça, c'est que le film se veut très intimiste. Mais pourtant, toutes les scènes sont filmées d'assez loin. On a beaucoup de plans larges où on voit du coup les cavaliers, au loin qui arrivent.
Je suppose qu'ils s'inscrivent aussi dans leur terre, s'il doit y avoir une nécessité de les filmer ainsi, non ?
C'est ça, mais ça répond, ça amène aussi le propos, et ça laisse surtout en fait le temps de réfléchir par rapport à ce qu'on voit. Il y a aussi pas mal de musiques qui viennent accompagner, que ce soit des musiques, des chants traditionnels ou même des musiques plus modernes, notamment pas mal de country. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça laisse le temps aussi de réfléchir à ce qu'on voit. Et ça permet aussi de voir un peu le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, qui sont quand même des endroits qui sont assez fabuleux, assez magnifiques. Mais ouais, il y a peut-être un recul qui est peut-être un peu dommage par rapport à la démarche intimiste qu'il y a par rapport au film, du coup de pas se retrouver un peu au milieu de cette chevauchée.
Ouais.
Et il y a aussi beaucoup de travelling qui sont assez intéressants.
Bah, okay. Oui, il y a peut-être un souci de faisabilité, de moyens, tout
c'est,
ça.
C'est sûr, c'est sûr.
C'est compliqué, notamment pour un documentaire. Quoi.
Bon, en tout cas, The Ride, tu l'as super bien vendu, c'est intriguant. Ça donne envie d'air pur et de chevaucher fantastique.
J'ai peut-être quelques anecdotes aussi, si ça vous intéresse okay. Du coup, par rapport au film. Donc, il faut savoir déjà que dans l'équipe, ils étaient trois. Pour suivre ça. Donc le tournage a eu lieu sur la période de décembre, donc à peu près le mois entier. Parce que oui, la chevauchée se fait sur quasiment 15 jours, si je dis pas de bêtises, pour faire toute la distance, voilà, merci. Et là où la réalisatrice en fait a eu une démarche assez aussi intéressante, c'est qu'elle a voulu des gens qui étaient prêts en fait à faire l'aventure, parce que pour elle c'était quelque chose qui était assez important, plutôt que des gens qui voulaient de la technique. Notamment le fait de pouvoir dormir dehors, de pouvoir se nourrir de chips et de café, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Et je trouve qu'il y a vraiment aussi une démarche de la réalisatrice pour s'intégrer et vivre aussi l'aventure et de nous la faire vivre.
Okay. Bah, ça a l'air vraiment en tout cas super intéressant et on le proposera sûrement avec plaisir tout à l'heure. On enchaîne, même pas à se déplacer de sa maison, même pas à bouger ses fesses de son canapé, de Cloverfield Paradox, film de Julius Ona, premier long métrage. C'est produit par J.J. Abrams, ça rentre dans la grande saga Cloverfield. La grande, il n'y a eu que deux, mais au final on en parle pas mal sans en parler. Alors, c'est le principe. Trois films en tout. Ouais. Le quatrième va sortir, on va pas passer sur le côté marketing, ça nous intéresse pas, on parle de film ici. Cloverfield Paradox, donc, c'est un Cloverfield in space, comme on pourrait tranquillement le présenter. Et tiens, on va lancer Quentin dessus.
Ah.
Qu'est-ce qui se passe dans Cloverfield Paradox?
En fait, dans The Cloverfield Paradox, c'est dans un futur très proche, hein, y a un souci en termes d'énergie sur Terre, et on va dire que toutes les nations sont prêtes à se mettre sur la gueule. Et il y a une station spatiale dont j'ai oublié le nom qui, en fait, est partie en orbite. Alors, il y a une personne de chaque pays, tout ça. Ça ressemble pas mal à Sunshine dans le truc. Et en fait, ils ont créé un accélérateur de particules qui va faire en sorte que ça...
Que les particules accélèrent.
Les particules accélèrent,
et
exactement.
Et que ça donne de l'énergie.
Et que ça donne une énergie infinie, et comme ça, il n'y a plus de guerre.
Voilà.
Et en fait, quand ils le font, donc ils mettent en route le truc, et ça foire, évidemment.
Évidemment.
Sinon, il n'y a
ça
pas de
film.
Ça fait
Twitch, ça fait une grande lumière blanche-violette.
Et là, ils se rendent compte que la Terre a disparu.
Bah
voilà le...
Ah mince alors.
Oh là là, la promesse est impressionnante. Est-ce que le reste suit?
On verra. Le pitch a l'air super intéressant. J'ai vu le film, hein. Je dis ça avec toute l'ironie du monde. Nam, ce que tu retiens aussi d'autre qui est intéressant, avant qu'on s'enfonce tranquillement dans les bassesses de ce film, c'est le casting.
Oui, s'il y a quand même un gros point, un bon gros point à retenir du film, c'est le casting international. Alors je ne me suis pas renseigné sur chaque acteur, mais en tout cas ceux que je connais, ils sont originaires des pays qu'ils représentent.
Oui.
Ce qui est un effort qui est plutôt intéressant.
Il y a Daniel Brühl par exemple,
parce que c'est Allemagne. Oui, c'est ça. Et Zhang Zi qui vient de Chine. Et donc du coup, voilà, on a un casting international dans une passion spatiale internationale.
Mm-hmm.
Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme effort. Aux États-Unis, ils le font pas souvent. Et du coup, on a des dialogues. Par exemple, des fois, ils vont se parler en chinois, des fois, ils vont se parler en anglais, il y a un peu d'allemand aussi.
Légèrement. Il y a un tout petit peu de russe aussi.
Ouais.
Tu sais, voilà.
Il y a plus de chinois au final qu'autre
chose. Ouais,
beaucoup. T'avais bien le.
Voilà. Hein, mais
voilà. Et mais puis le film n'a pas grand chose d'autre. Pourquoi? Parce que, alors, pour moi, c'est dans la droite lignée de ces films SF pour être des films SF comme Life ou Passengers, par exemple, qui étaient sortis ces derniers temps, où il y a zéro empathie. Envers les personnages. Il y a une scène au début où tu comprends que la personnage principale, sa famille lui manque, parce que voilà, il y a son mari et ses gamins qui sont là et qui blottissent. Et du coup, tu es supposé avoir de l'empathie pour elle, parce que la scène dure 20 plombs et que je suppose que la musique derrière fait l'accord qu'il faut, je connais pas exactement, mais c'est l'accord qu'il faut pour que ça soit larmoyant.
C'est le signal, t'es censé pleurer.
Mais,
voilà.
Mais je comprends pas qu'en 2018 on puisse faire un pitch où pour donner de l'empathie à un personnage, on suffit de montrer qu'il a une famille. Enfin, ça marche plus. Mmh. C'est quelque chose qui marche plus. Et je saurais même pas dire qu'est-ce qui marche pas dans ce film, tant à peu près tout marche pas. En fait, c'est un vide intersidéral et il y a zéro il y a zéro empathie. C'est là le problème, c'est même pas que j'ai trouvé chiant ou mal fait ou quoi que ce soit. Quoique, effectivement, il y a tout un tas d'incohérences qui peuvent être, qui sont assez rigolotes à noter. Mais c'est, il y a zéro empathie. Le film passe et il sera oublié à mesure qu'il est vu, quoi.
Alors, moi, je sais que je suis un peu tatillon sur les films de science-fiction.
Mm-hmm. Ah bah t'es amusé là.
Oui, mais quand on me présente un film de science-fiction, on me présente un univers avec ses règles. En général, qui sont tirés de faits pseudo-scientifiques, on reste dans la science-fiction.
Bien sûr.
Mais on doit avoir une base
cohérente,
solide. Alors, le film. Alors, bon, je vais vous.
Prends un détail parce que.
Je vais vous casser le truc. Non, mais voilà, je vais vous casser un peu le truc. Alors, moi, le premier truc que je me suis dit quand la Terre a disparu, je me suis dit, ah, alors attendez, vous allumez votre machin. Vous, ça va, la Terre aurait disparu. Pourquoi la Terre aurait disparu? C'est vous qui êtes partis.
Voilà.
Et en effet, c'est eux qui sont partis.
Enfin, oui.
Il n'y a pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Les personnages mettent une demi-heure à s'en rendre compte. Bon, passons. Non, moi, l'incohérence que j'ai, c'est que, bah, en fait, ils sont partis dans une autre dimension. Pourquoi pas? En quoi le fait de partir dans une autre dimension fait que ton vaisseau, ta base spatiale, essaie de te tuer? C'est quoi le délire de maison fantôme dans l'espace qui avait pas lieu d'être au final, parce qu'en fait ça ressemble à ça. C'est plus un. Comment il s'appelle ce film où les mecs s'échappent à la mort et ça les poursuit.
Ah, Destination Finale.
Oui, voilà. Destination Finale. C'est un peu un Destination Finale. Où t'as l'impression que tu sais pas pourquoi l'espace-temps il s'est dit, ah, je vais pas genre juste les prendre et puis les jarter ou les faire se détruire ou faire plein de trucs en fait. Non, je vais les prendre un par un parce qu'au final c'est les gens qui sont importants. Enfin, c'est très bizarre.
Mais en fait, moi je vais nuancer un peu parce que. Moi, bon, de manière générale, c'est vrai que la série Cloverfield, enfin les deux autres films Cloverfield, moi, c'est des films que j'apprécie beaucoup pour ce qu'ils ont proposé et pour ce qu'ils ont proposé à l'époque en termes de communication autour du film. Je trouvais ça très intéressant. Moi, j'y ai vu un truc. Ah oh, bah tiens, il y a des mondes parallèles. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh bah tiens, on va faire ça, quoi. Les mecs tentent des trucs. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le coup du mec qui a son bras qui se fait aspirer, tout ça. Et c'est vraiment, c'est très drôle parce qu'il y a un côté un petit peu comme la main, j'oublie le nom de la main dans la famille Adams, là, qui se déplace toute seule, c'est la chose,
quoi. La
chose. Il y a un truc comme ça, en fait, qui est assez drôle, c'est le personnage est assez marrant, tout ça. Il y a des propositions.
Ça se repose beaucoup sur Chris O'Dowd,
qui est
un acteur qui joue irlandais, qui joue dans The IT Crowd, par exemple. Qui a un potentiel comique extraordinaire.
Il est très drôle, il est drôle, il y a des répliques assez marrantes et tout ça.
Mais elles tiennent pas ensemble.
En fait, il y a des propositions formelles que j'ai trouvées cool. Je me suis dit, ah tiens, cool, mais c'est pas dingo, quoi. Il y a par exemple, il y a une scène, sans vous spoiler, mine de rien, qui implique de la glace. Et je me suis dit, tiens, moi qui ai vu plein de films de SF, tout ça, j'avais jamais vu ça. Alors certainement que Nam a vu ça, j'ai vu ça dans Jason X.
Alors,
même si c'était
non,
pas...
Non, c'est pas pour dire... Non, non, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'en effet, c'est pas une vision que j'ai eu l'habitude de voir dans les films de SF. Le problème, c'est qu'en fait, bah, l'effet est cool, mais 20 minutes plus tard dans le film, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas possible. Parce que certes, la Terre est plus là, mais ils sont à la même distance du Soleil. Donc ils ont chaud, ils se prennent les. Tu sais, c'est comme nous, tu vois. Nous on a de la chaleur sur Terre.
L'air dans l'espace, il est froid quand même, tu vois.
Non, mais l'air dans l'espace, il est plus frais. S'il y a de l'air, on peut dire. Mais le truc, c'est que dans l'espace, tu te prends les rayons solaires et tu te les prends vachement plus violents. Ça serait pas d'atmosphère.
Catherine Nam l'aborde.
Non, mais en vrai, ça marche pas. En vrai, ça marche pas.
C'est clair.
Hors météo, le film marche pas, la météo marche pas dans le film. Rien ne marche.
Un autre problème aussi que j'ai eu par rapport au film, c'est que. Alors. Qui veulent le mettre à Cloverfield, je veux bien.
Ouais.
Alors, on sait toujours pas pourquoi il y a des monstres, hein, à moins qu'ils étaient aspirés dans l'espace-temps, on sait pas trop comment, quand il y a eu le problème.
Piste, quoi.
Pourquoi pas? Pourquoi un déplacement dimensionnel fait que t'as des monstres qui débarquent chez toi? Je sais pas. Apparemment, peut-être dans l'univers de Lovecraft, c'est possible. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Cthulhu. Le problème, c'est que bah, on a cette histoire dans l'espace. On a l'histoire du mari de la femme qui est sur Terre. Le mari de la femme sur Terre, de ce que je comprends, il vit un peu ce que les gens de l'univers Cloverfield, des autres films, ont pu vivre. Sauf que ça dure 10 minutes dans ce film-là et qu'on n'en a pas grand chose à faire de lui. Non. Et à la fin, on voit un gros monstre. Et moi j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça rappelle vachement Silent Hill. Au final, t'avais une histoire d'un côté qui était bien toute seule, et puis on te rajoute Sean Bean. Et là, c'est pareil, on te rajoute le père. Ça nous rajoute, je sais pas, 20 minutes de film.
Et c'est le côté empathique qui essaye d'être mis et qui est complètement factice.
Le gros monstre de la fin. C'est un spoil majeur, mais le gros monstre de la fin, c'est le monstre de Cloverfield. C'est le monstre du premier film.
Oui.
Mais quand tu le sais pas, évidemment que tu dis oh, de quoi ce truc. Mais quand t'as vu que le reflet, tu fais genre ah bah d'accord.
Mais peu importe, moi c'est ça, c'est que peu importe en fait. C'est là où je veux revenir, c'est que peu importe si tu es que t'as vu la saga ou pas, en tant que film unique il marche pas, en tant que film dans la saga il marche pas.
Il s'inscrit mal, ouais.
Il s'inscrit mal.
Comment il s'appelait ce.
Moi je trouve qu'il s'inscrit mal.
Le film de monstres de l'année dernière où t'avais des créatures gigantesques sur une île, c'était un truc par rapport à la guerre du Vietnam, je sais plus comment il s'appelle.
Bah, Skull Island.
Non, Kong Skull Island, c'est ça. Skull Island.
King Kong.
Non, mais.
Je sais pas trop.
Non, mais
voilà.
Non, mais je me rappelle de tous les monstres sauf de King Kong. Et voilà. Parce que c'est le moins intéressant, parce qu'on connaît. Moi, le problème que j'ai eu avec Kong Skull Island, c'est que tu vois le film, t'arrives à la fin, et à la fin, ils te disent ah, au fait, c'est en lien avec le film Godzilla, vous savez, celui qui est sorti il y a quelques années. Et moi, j'étais là, je fais mais ah bon ? Et alors, dans ce cas, t'es pas censé genre, l'amorcer à un moment dans le film. Genre, tous les trucs maintenant, c'est des machins cinématiques univers avec des bandes annonces à la fin. Oui, c'est un peu comme ça,
c'est des séries.
Mais on va pas avoir ce débat, mais c'est évident que tu pointes quelque chose qui est très réel. Petit point factuel, j'attendais la toute fin histoire de vous la lâcher comme ça. En fait, Cloverfield Paradox, c'est un film qui a été repris. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un film indépendant qui était lié en rien avec l'univers Cloverfield, qui s'appelait God Particle. Et en gros, ils ont vu le truc, ils ont dit bon, bah, ça peut être sympa. Ils ont repris, ils ont réécrit, ils ont retourné des scènes qui manquaient, machin. Ils l'ont sorti, d'où le côté ultra bancal. Certains disent qu'il est sorti directement sur Netflix parce que Paramount a vu le résultat et s'est dit. Même pas, on sort ça en salle.
D'accord.
Mais dans ce cas, tu le vends pas au Super Bowl.
Du coup, voilà. Parce que...
si, parce que ça fait partie de la campagne virale.
Ça fait partie du truc viral, du ah, ça arrive tout d'un coup, etc. Souvenez-vous, le premier Cloverfield, il y avait juste la date, il n'y avait pas le nom,
ils avaient juste mis la statue de la liberté avec la tête décapitée dans les studios. Et personne n'était au courant, ils l'ont mis un an avant. Enfin, moi j'avais suivi toute la campagne virale, c'était facile.
Du coup, faire toute une saga sur de la pub. Au bout d'un moment, ça va peut-être se casser la gueule.
Mais oui,
enfin,
bien sûr. Mais oui,
il peut pas durer ça. Enfin, il peut pas continuer à faire des films moyens et bancals.
Ah,
après, j'ai pas vu les autres. Mais
Hollywood,
ils
le font tranquillement. Ils ont les sous.
Dans ce cas, pourquoi en faire en Cloverfield ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Parce que le film de base marche pas, ça coûte moins cher.
Non, mais parce que ça coûte moins cher que de payer des gens pour écrire un scénario.
Parce que c'est des bases en fait. Ouais, les gens vont... Non, mais en fait, Cloverfield, c'est une. Enfin, je pense que c'est une saga, un début de saga.
Ouais.
Qui en fait est basé sur le mystère. C'est que ça. Genre le premier Cloverfield c'est basé sur le mystère. Le deuxième Cloverfield c'est pareil.
Le problème c'est qu'à baser ta campagne marketing et virale sur le mystère, on oublie que le mystère est toujours plus intéressant que ce qu'il y a dans la boîte.
Le soufflet va vite
retomber. C'est
le principe de Lindelof.
Il y a plein de films qui nous ont montré que tu peux très bien répondre à des choses pour poser d'autres questions derrière.
Le
mystère tu peux l'entretenir en donnant des réponses.
Ouais.
Tu l'entretiens en posant
d'autres questions.
Oui.
Il y a une série qui s'appelle Lost qui a posé les bases de ça.
J'ai pas regardé, il paraît que la fin est décevante.
Oui.
Pas du tout. Oh là là, on change complètement le thème de l'émission. Pourquoi Lost c'est bien ? Ok. On enchaîne. On revient en France tranquillement et cette fois je vais vous parler d'un vrai bon film. Je suis le seul à l'avoir vu et ça m'attriste un petit peu. Jusqu'à la garde, c'est son titre. C'est le premier film réalisé par Xavier Legrand qui est un acteur et dramaturge qui a repris un court-métrage de 2012 avec les mêmes acteurs, à savoir Léa Drucker, Denis Ménochet, et qui a ajouté Thomas Gloria pour faire une petite famille qui est malheureusement éclatée. Pourquoi ? Parce que Julien, qui est le nom du fils du coup, est tiraillé entre sa mère et son père qui se battent pour avoir la garde de l'enfant, sauf que on comprend assez rapidement que le père est d'un naturel plutôt violent et que la mère est victime dans tout ça, mais que la justice est un rouage qui est lent et lourd, qui écrase des fois, mais qui est lent et lourd. Et il va se passer un petit moment entre la décision de la justice et ce rythme alterné, savoir si le père a vraiment commis des actes de violence envers ses enfants et sa femme ou non. Ça commence comme un drame, ça finit comme un thriller, voire un home invasion, oubliez que j'ai dit ça. En attendant, c'est un film qui est réussi de toutes parts, c'est-à-dire que vous pouvez me nommer n'importe quel élément de ce film, il est bon, direction d'acteur c'est bon, casting c'est bon, si jamais Léa Drucker et Denis Ménochet vous n'avez pas été convaincu avant, déjà je sais pas comment c'est possible, vous allez être convaincu maintenant. Thomas Gloria donc qui joue le gamin est exceptionnel, c'est son premier rôle, il a commencé, il avait jamais fait avant, les premiers jours de tournage sur le plateau. Il regardait tout le monde parce qu'il avait jamais fait ça avant. Il est extraordinaire. Super travail de cast. Le mixage sonore est parfait, la mise en scène est parfaite, la direction artistique elle est parfaite. Ouais, je m'emporte un petit peu sur ce jusqu'à la garde. Il faut savoir qu'il a eu un accueil presse qui est complètement dithyrambique. On le suit avec plaisir. C'est... Pour être sur un autre sujet, je vois quasiment tous les films d'horreur qui sortent au cinéma, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, surtout s'ils sont mauvais. Et donc t'as l'habitude. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas été terrifié à ce point. Et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est pas pour faire le malin. Je suis pas là, on n'est pas là pour vous vendre le film. On n'est pas distributeur, on n'est pas producteur de ce film ni rien. J'ai eu des spasmes sur la dernière partie de la scène. Et j'ai passé, il me semble, les 15 dernières minutes avec la main devant la bouche. C'est terriblement froid, c'est terriblement terre à terre, c'est un film qui décolle jamais. C'est-à-dire que je pense que plein d'autres films n'auraient pas eu le courage de porter ce côté réaliste jusqu'au bout. Sans, il n'y a jamais de volonté esthétisante, il n'y a jamais de volonté d'abstraction, il n'y a jamais de volonté fantastique. On est dans un dîner chez les beaux-parents, on est dans une kangou, on est dans une chambre fermée, on est la nuit. C'est extrêmement oppressant. On a zéro vie quotidienne des différents, de la père ou du père ou de la mère ou des enfants. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que Julien, je vous laisse faire les ramifications. On a quasiment, je dis pas zéro, on a quasiment aucune scène. C'est vraiment les week-ends où Julien va avec son père, où il doit partir de chez sa mère, il va avec son père. Et tu vois la terreur de ce gamin, et c'est un acte, c'est là où tu retrouves c'est là où tu retrouves que Xavier Legrand est dramaturge. C'est que c'est en trois actes. Acte 1, premier week-end. Acte 2, deuxième week-end. Acte 3, troisième week-end. Et petit à petit, l'angoisse s'installe. Et je vous conseille, alors je sais pas exactement combien de bandes annonces il y a eu. Il y a eu une bande annonce qui est absolument géniale, où tu as, c'est dans la première scène du film, où tu as la présidente qui est chargée au tribunal, oui, de ça, séparer le père et la mère.
C'est la seule qu'il y a eu, j'ai vérifié, parce que je trouvais que c'était une excellente bande-annonce.
C'est excellent. Et en fait, t'as juste la présidente qui lit les conclusions du dossier avant de rendre son verdict. Le rythme du film, c'est vraiment cette bande-annonce. Voilà. Et je peux pas trop vous en dire, parce qu'il y a tout un tas du film qui, la narration en fait est la base de la mise en scène, et la mise en scène est tellement, tellement mariée à sa narration que vous dire quoi que ce soit sur ce qui se passe, même en termes de forme, ça serait vous donner ce qui se passe en termes de fond. Mais en termes de mise en scène, chaque acte ayant à peu près un genre et ses codes, et les dépassant un petit peu, en termes de mise en scène, c'est extraordinaire. Il a eu le prix de la Mostra à Venise là dernièrement. C'est quand même pas un prix qu'on a à la légère, surtout pour un premier film, surtout pour un film de ce genre. C'est un film que je recommande, c'est un film qui est terrifiant, et c'est surtout un film qui évite le piège du sociétal ou du social. Ça ne force rien, ça ne force aucun propos. C'est de la pure animalité. Et voilà, c'est trippant, c'est un film qui me colle à la peau, où j'ai du mal à m'en débarrasser. Et ça sera très certainement un de mes films favoris de cette année, si ce n'est, je dois encore avoir un petit peu de recul, parce qu'on est tellement, tellement dans l'instantané aujourd'hui, qu'on voit tellement de films, on en bouffe tellement que on a toujours un peu peur de se projeter et de dire putain, ça c'est vraiment très très bien. Mais Jusqu'à la garde, c'est vraiment très très bien. Et voilà, ça fera partie des films de la décennie, peut-être, si vieillit bien, si j'ai du...
De tous les temps.
De tous les temps, voilà, c'est le meilleur film de tous les temps. Non mais c'est vraiment...
Ah, mais c'est...
Le seul problème pour le réalisateur, c'est comment il va faire son deuxième film.
Ah bah là,
Là, ça risque d'être une grosse galère quand même.
Puis c'est un film qu'il a mis, alors voilà, il adapte d'un court-métrage qui date d'il y a 5 ans, c'est un film qu'il a depuis 10 ans en tête.
Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que...
C'est un sujet qu'il a approfondi avec des sociologues, il est allé sur le terrain.
Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les prémices, la promesse du truc, c'est que c'est. Y a pas grand chose. Quand tu racontes le truc, si c'est trois week-ends, c'est une instance de divorce, c'est un truc que tu peux avoir vu un milliard de fois, c'est du quotidien, mais je sais plus qui disait ça, est-ce que c'est Stephen King ou je sais plus quoi, mais c'est l'horreur née du quotidien.
Exactement.
Et,
exactement.
rien que ça, rien que la promesse du truc, quand on voit, bon, déjà, quand on, enfin, taper Denis Ménochet sur Google Images, vous allez vite comprendre. Hein. C'est impressionnant.
C'est le seul bon acteur français de Inglourious Basterds,
oui, non,
de 20 000 bornes.
Ah non, il est, c'est, enfin moi, j'ai pas vu le film, mais moi, j'ai limite peur d'aller le voir, quoi. Dans le sens.
Non, mais t'as raison. Mais, j'ai peur, mais oui.
Ça, je pense que c'est une expérience et on est là, vous voyez pas Robin, mais on est avec Robin à la table. Robin il tremble, quoi. Il a des grandes gouttes. Attention, Denis Ménochet juste derrière toi, tu feras gaffe, quoi. Voilà. Mais moi je suis pour le coup, je suis convaincu, quoi. Je me dis, il faut aller voir jusqu'à la gare.
Il y a des avis dithyrambiques et. Encore un autre truc, il y a 20 000 bons arguments, mais pareil, c'est dans la représentation de la banlieue, de la banlieue moyenne, mais genre dans le sens le plus moyen du terme moyen, c'est extraordinaire. Les dialogues de beaux-parents, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est là quoi, ça colle. On finit avec Wonder Wheel, film de Woody Allen, qui est aussi dans l'actualité, mais pas pour des bonnes raisons, ce vieux pépère.
Ah oui, c'est vrai.
En attendant, il a quand même fait un film qui a floppé de ouf aux États-Unis. Oui, floppé de ouf.
Ça a sûrement joué.
Qui a fait moins d'un million, ou à peine dépassé le million en box-office, en dollars en entrée, tu vois, donc c'est ridicule.
On va savoir si c'est dû au film ou si c'est dû à l'actualité de Woody Allen, du coup.
Bah,
grande question.
Grande question, Laurent. T'es allé investir. Cache investigation, ouais, Laurent.
Bah, moi, Woody Allen, j'y vais un peu à chaque fois avec un espoir sans trop m'y attendre. Les derniers que j'avais vus, c'était L'Homme Irrationnel et Magic in the Moonlight, je crois. J'avais pas vu. Non, il y en a d'autres entre temps.
On sous-estime toujours le nombre de
Woody
Allen.
Ça va me revenir. Il y avait Blue Jasmine que j'ai pas vu en dernier et Café Society que j'avais pas vu non plus. Enfin bref, quoi qu'il arrive, les derniers que j'avais vus m'avaient pas plu du tout. Même très fortement déconcerté. J'avais trouvé ça assez naze. Et. Enfin, il se perdait dans plein de sujets, dans plein de façons d'aborder des thèmes dans lesquels je trouvais qu'il était pas très bon. Et là, sur ce film, il revient un peu au basique, en fait, à du classique, où c'est beaucoup orienté sur les dialogues, c'est très verbeux, c'est un côté très théâtral, avec peu de personnages, peu de lieux, ça reste souvent huis clos, où les personnages restent entre eux, etc. Et avec des triangles amoureux, certes, un peu classiques, et qu'on connaît bien chez Woody Allen, mais en tout cas, je trouvais qu'il restait à une sorte de basique qu'il sait bien faire, et je trouve qu'il le fait bien. Voilà, il prend pas beaucoup de risques, mais ce qu'il fait, il le fait bien, il fait comme on peut l'attendre, et voilà. Et je pense que si on est fan de Woody Allen, on va aimer. Si on en a un peu marre de ce qui nous sort, des quiproquos, des triangles amoureux, des histoires de meurtre, voilà, ça peut nous ennuyer. Mais sinon, moi je trouve qu'il fait le taf, et ça m'a plutôt rassuré, parce que sur les derniers, je l'avais l'impression d'avoir perdu, et du coup, j'étais rassuré sur celui-ci, quoi.
Du coup, à part si on a un gros a priori sur Woody Allen, à raison ou à tort, on n'est pas là pour débattre de ça. Ça va être compliqué, mais suffit de pas mettre ses attentes trop haut ni trop bas, quoi.
Ouais, c'est ça. Et je pense que typiquement, si on n'a jamais vu de film de Woody Allen et qu'on voit celui-ci, on peut trouver le scénario, je pense, incroyable. On peut dire, oh, mais c'est un génie, ce mec, c'est trop bien. Si on a déjà vu Match Point ou Scoop ou tout ce qu'on veut avant, on va se dire, oui, bon voilà, ça ressemble un peu à ce qu'il a déjà fait. Il fait la même chose, il le fait bien. Après, le mec a quand même 82 ans, on peut se dire que bon... Il est quand même plutôt bon.
Le souci de Woody Allen, moi je n'ai jamais été un grand fan de Woody Allen, je respecte énormément l'œuvre, mais j'ai l'impression que ce mec, j'ai l'impression que c'est très complaisant, quoi. Il prend vraiment pas de risques, quoi. Il est.
Plus de risques.
Moi je trouve que c'est dommage quand on dit, oh bah c'est Woody Allen, quoi. Et enfin.
Il en prend plus. Après, il a tellement apporté quelque chose que je pense qu'on peut l'accepter, et voilà, même si c'est pas notre grand kiff, on peut se dire.
Comme Spielberg.
Il a fait son taf, il le fait toujours là-dessus, il le fait bien, parce que moi je trouve le dernier m'avait pas trop plu, là il le fait bien, je pense qu'on peut s'incliner, si on est fan, tant mieux.
Il revient à un niveau de croisière sans plus.
Oui, voilà, mais après, ça se regarde, enfin si on aime bien, on va pas perdre son temps.
Ça se laisse regarder.
Ouais, ça se regarde.
Allez, récapitulatif des sorties pour voir si on se déplace ou pas, ou si on allume Netflix ou pas. Revenge.
Moi, en vrai, j'arrive pas à conseiller les gens d'aller le voir, mais aller le voir pour peut-être voir ce qu'il faut pas faire. Peut-être. Je suis
avec un air candide.
Pour le coup, je suis assez sincère. C'est que je trouve que c'est beaucoup de bruit pour beaucoup d'incohérences et d'amateurisme.
Bon, pardon. Florian.
J'ai envie de dire non, mais.
T'as le droit, hein. T'as le droit de dire non et t'en battre les couilles. Hein,
ça... Non. Honnêtement, je vous dirais non, mais vous n'êtes pas moi.
Ça forcément. Moi je mets oui, mais connaissez votre combat, connaissez vos combats et ayez de la distance envers eux-mêmes. Voilà. Croman. Croman, c'est oui.
Oui, oui.
Mais oui, c'est mignon, Croman. Allez, Gaspard va au mariage, moi, je mets non.
Non, allez voir autre chose.
Ouais, il y a autre chose de bien. The Ride.
Ouais.
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 On est prévenu, on sait de quoi ça parle, on connaît la distance. Voilà.
C'est ça, mais ouais.
Mais ouais, complètement. Cool. Cloverfield Paradox, il y a tellement de choses sur Netflix.
Vraiment, s'il n'y a rien d'autre.
Il y a tellement
non, mais,
de choses.
Non, mais il y a tellement d'autres trucs à voir.
Vous allez vous faire du mal.
Un dimanche soir.
Non, même
ouais,
pas.
Dimanche après-midi.
Si, moi je l'ai regardé. Ouais. Il
en faut des dimanches soirs avec tous les films qu'on
dit à regarder dimanche
soir.
Ouais, voilà.
Les dimanches après-midi, moi c'est cocooning. Je teste les produits de beauté de ma meuf et je mets un film, un Cloverfield Paradox, c'est parfait.
Si, c'est pas mal. Si vous avez vu les autres Cloverfield, regardez-le pour le principe.
Ouais, pour être déçu après. Jusqu'à la garde, c'est un grand oui, mais si vous êtes cardiaque ou voilà, faites gaffe. Vraiment, faites gaffe à vous et regardez derrière vous quand vous sortez de la salle. Wonder Wheel.
Bah ouais, pourquoi pas. Si vous avez un bon a priori à Woody Allen, allez-y, bien sûr.
Ils sont 4 dans le monde. Ça fera 4 spectateurs. On va passer.
Plus que ça.
Un petit peu plus. Ouais.
Bah, déjà, si t'enlèves toutes les femmes maintenant, ça va être compliqué. Ouais.
Bref. On enchaîne sur le quiz de la semaine qui nous a été préparé par Quentin Rigolon. Quentin.
Ah.
Quiz de la semaine, c'est parti. On va voir un petit peu quelle est l'inventivité de nos chers amis cinéastes et scénaristes. Tu vas nous proposer des pitchs et il va falloir trouver s'ils sont bons ou complètement mythos.
C'est ça, tout à fait. Et il y aura un genre de petit point bonus pour celui qui trouve le titre du vrai film.
Petite question, est-ce que c'est toi, les scénarios mythos, est-ce que c'est toi qui as créé
ouais.
Super. Ok, on va tester alors. On va voir quelle est ta proportion à faire un vrai film, un vrai scénario ou pas. Je t'en prie.
Alors, les équipes du coup, ça sera Robin avec Laurent contre Nam et Florian.
Le gagnant a évidemment le coup de projo de l'émission prochaine.
Voilà.
C'est parti.
Alors, par contre, je ne compte pas les points hein, parce que je suis en train de lire les trucs, donc comptez les points.
Ouais,
les gars.
On comptera. Oui.
Alors, dans un futur proche, sur une terre surpeuplée où chaque femme ne peut avoir qu'un seul enfant, John Brennick est un hors-la-loi. Après la mort de leur premier enfant, sa femme a mis au monde un second bébé. Pour cette faute, John et son épouse sont envoyés dans une prison de haute sécurité. Dès son arrivée, il n'aura alors plus qu'une seule idée en tête, s'évader.
Alors, et ça me fait...
J'ai envie de dire que c'est faux.
Toi, tu dis faux?
Qu'est-ce
qu'ils disent en face?
Moi, j'aurais dit pareil, j'aurais dit faux aussi, toi aussi. Mais...
Ouais, non, c'est faux.
C'est faux, et bah non. C'est
moi, j'aurais dit oui, ouais.
Alors, attends, ouais, c'est quoi comme film?
C'est Fortress. C'est un
d'accord.
Film de 92, réalisé par Stuart Gordon, mais avec Christophe Lambert.
Oui, mais oui, mais c'est ça, je l'avais en plus.
Voilà, donc ça fait 0 points.
Il a vraiment des super spermatozoïdes, c'est Christophe.
Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Alors, Francine a du mal à joindre les deux bouts entre son fils handicapé et son travail de caissière. Alors qu'elle rentre chez elle, elle est frappée par la foudre et se réveille avec des pouvoirs psychiques hors du commun.
Bon, du coup, le film français qui
le
part
doute,
en,
le
en
doute
sucette.
Règne.
J'ai envie de dire que c'est faux, mais si un nanar comme ça existe, je veux le voir.
Et c'est refaux.
Ouais, dites c'est faux, aussi, eh bien c'est faux, messieurs, donc ça fait un point chacun.
Ok, yes.
Comme ça.
Bon.
C'est un film, bon, je l'ai appelé Super Prolo. Voilà. Alors j'ai donné des titres aux faux films, hein, vous verrez.
Ok.
Alors. Ça rappelait Super U, mais bon, après, chacun son truc.
Alors que tout va bien dans sa vie, Frank Collins fait la rencontre d'une femme mystérieuse qui s'avérera être une escort girl de mèche avec les services secrets chinois. Commence alors une course effrénée vers la rédemption.
On dirait genre un genre de Target avec...
N'importe quel film avec Luc Besson. Luc Besson, ça pourrait marcher, limite.
Bah, mais pourquoi chinoise? J'arrive pas à trouver la justification de la chinoiserie.
Bah en général,
c'est des Asiates. Hein.
En général, c'est des Asiates.
Alors vrai ou faux, du coup, les gars voilà.
Bon, franchement, j'ai envie de dire oui.
Moi, je sais pas.
Vous dites faux?
Encore faux.
Et vous dites vrai?
Bah tu dis...
Allez, ça va se départager.
Pourtant, si t'as pas d'avis, moi j'en ai donné un. Hein.
Je te suis.
Ok.
Eh bah c'est faux.
C'est
faux.
Ah, bim, 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 bim.
C'est
bim.
Faux, hein. Je l'ai appelé, c'est un film qui s'appelle La Chinoise Chelou.
Mais en fait, mais c'est tellement con comme synopsis que ça pourrait
mais
totalement
se faire.
Mais on voit le Europa Corp, ils sont en guerre
bah oui,
de
ils
en plus.
Chaudard. Ils seront chaudards.
Attends, ils font Taxi 5. Hein.
Ouais.
C'est eux qui font.
Ouais.
Oui, oui.
Oui, oui.
Oui, bah.
Francky. Franck Gastambide. Alors.
Attention.
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette.
C'est vrai.
Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire.
C'est totalement vrai.
C'est quel film?
Et c'est... putain, j'ai vu le trailer, j'en pouvais plus, toute ma vie. C'est.
Ça a l'air marrant, c'est récent.
Mais c'est vrai, ça a peut-être peut-être 2 ans, 2-3 ans.
Ah, de toute façon, le point est pour vous, tu avais la connaissance du film.
Mais non, moi je dis vrai, totalement vrai.
Tu dis vrai ?
Ouais.
Bon, non, mais... c'est vrai. Alors, ouais, c'est quel mais... film ? Attention, moi c'est un film que j'ai vu en salle, ça m'a fait énormément de mal. Si je te dis avec qui c'est, tu
vas un titre. Franchement, c'est pas genre Good Santa ou un truc comme ça.
Mais c'est une horreur, quoi.
C'est pas genre Good Santa ou un truc comme ça.
Non, c'est un film français. C'est Les Nouvelles Aventures d'Aladin.
Oh, ah, c'était ça le
bail. Oui, je suis désolé, les gars.
C'est ça.
Du coup, ça fait 2-1.
Ouais, hein. Non, ça fait 2-2.
Ça fait 2-2, pardon.
Mais en tout cas, ça avait l'air rigolo. Putain, moi j'avais presque envie d'aller le voir.
Mais c'est une horreur.
Bah oui,
dit comme ça, ça donne envie, c'est dur un peu.
C'est rarement.
Ce sont des enfants perdus, t'as acheté.
Alors, j'en suis où? Ouais, ok. Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante qui lui donne foi en la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants.
C'est vrai, et c'est Tree of Life.
Bravo. C'est vrai, voilà. C'est Tree of Life. Bravo. Donc là, ça fait un
encore
3,
attaqué
2,
derrière la tête.
Que
j'ai pas vu.
Non, ça
4-2. Ouais. 4-2. C'est pas à compter les points. C'est pas compter les points. C'est quel enfer.
C'est pas, on te demande pas. On te demande de faire des quiz rigolos.
Il nous reste combien de films là pour savoir si
il
on est
reste,
à la ramasse ou...
Attends 2 secondes.
Ouais, avec 2 points d'écart normalement, ça va.
2.
Oui, mais c'est pour voir si c'est possible. Donc suffisamment pour revenir.
Et 4.
Bon, bah c'est bon.
Il en reste 4.
Tout est encore jouable.
Allons-y.
Alors. Suite à un divorce tumultueux, Jennifer va vivre à la campagne dans une petite maison isolée avec ses deux fils. L'arrivée d'un voisin menaçant obligera la mère à se réfugier dans la cave de sa maison où se cachent ses pires cauchemars.
Hein. Les chaussettes.
C'est un home invasion, hein, il faut le savoir.
Les chaussettes sales.
C'est faux.
Non, tu dis faux.
Ses pires cauchemars, ça pourrait être des chaussettes sales, du coup il y aurait des amoncellements de chaussettes.
Vrai, vous dites que c'est un vrai film.
Ouais, non.
Moi je dirais.
Ça sent bien le film à Quentin, ça.
Ouais, grave.
Ça sent le faux.
Bon,
ouais.
C'est faux.
Voilà.
C'est faux, c'est un film que j'ai appelé La cave qui sentait le caca. alias Dégâts des eaux, The Movie. Voilà. Voilà, je me suis.
Maturité, comme
hashtag
on dit.
Maturité.
Il y a des gens qui nous écoutent. Voilà, là, qui bonjour. Sont dans le 60, ouais, qui ont la cave complètement inondée. Ça les fait pas rire du tout, là.
On a plein de synopsis. Hein. Vous nous appelez, vous en prenez 50 dans la semaine. Il n'y a pas de soucis.
Du coup, là, ça fait combien les points? J'ai un peu.
Ça fait 4-2 toujours, ça peut.
Ça fait
4-2. Non, du coup, on avait tous raison, c'était faux. Du coup, ça fait
5-3.
Écoutez, voilà, incroyable. Alors, Johnny est très amoureux de sa fiancée Lisa, qu'il a l'intention d'épouser. Mais cette dernière ne l'aime plus vraiment. Elle le trompe avec Mark, son meilleur ami.
Non, mais ça, c'est n'importe quel amoureux du monde. Est-ce que les prénoms sont vrais?
Les prénoms sont vrais.
Ah, bah donc c'est vrai alors.
Donc c'est vrai. Ah, il s'est calmé.
Moi je pense que c'est du vrai. Il veut nous impressionner.
Ou alors c'est une vraie histoire.
Parce que si vraiment il avait essayé d'inventer cette histoire, il aurait pas juste dit ça.
Ouais, il aurait dit un autre truc.
Mais il aurait dit un autre truc, donc c'est vrai.
En erreur,
Moi j'arrive pas à déceler ces questions, mais j'arrive à déceler le Quentin et ça c'est encore plus fort.
Exactement. Faut jouer le jeu.
Moi j'en sais rien, c'est pas de l'ASF, j'y connais rien.
Vous dites vrai ou faux?
Florian, vas-y.
C'est vrai, mais alors. Alors, quel film?
Ils ont dit vrai. Si on fait, voilà, si on est, peut-être.
Je vais dire non.
Allez.
Tu dis faux? Alors, c'est vrai, c'est un vrai film.
Bon, bah voilà.
Qu'est-ce que ça peut être?
C'est The Room. The Room, le fameux nanar de Tony Wiseau, tout ça. C'est l'histoire. Hein. Et c'est vraiment
c'est
le truc sur le ciné. Hein.
Ah oui,
c'est vrai que c'est un triangle amoureux.
C'est vrai que c'est ça.
Non, c'est
au départ.
Impressionnant. Alors.
Vu que c'est fesses, en fait.
Alors, du coup, avant-dernier.
Donc 3-4.
Je vérifie quand même que c'est l'avant-dernier. Oui, c'est l'avant-dernier. En proie à des cauchemars et semble-t-il des hallucinations, le jeune Bill, étudiant de Beverly Hills, confie à son psychiatre qu'il a peur de sa propre famille. Son ami Blanchard lui apporte un enregistrement audio qui tend à confirmer ses craintes. La sœur et les parents de Bill paraissent se livrer à d'étranges orgies avec des membres de la haute société. Ah oui, voilà. Et là ça sèche, mesdames et messieurs.
On dirait du Bret Easton Ellis.
Oui, non.
Avec des riches, des gens qui s'emmerdent, mais non, visiblement pas du tout.
Alors, du coup, les gars, oh là, j'ai perdu tout le monde.
Quoi. Bah ouais, là c'était compliqué.
En fait, c'était compliqué.
Il y a beaucoup de détails. Je me dis, est-ce que cet amoncellement de détails, c'est parce qu'il a totalement inventé, tu vois? Parce que tu vois, les vrais films, il nous a décrit des fois en deux phrases.
C'est vrai.
Alors, je veux dire, il faut écrire ici.
Je veux dire faux.
C'est, vous dites faux ?
Faux aussi, comme ça, ça on est sur la même longueur d'onde et ça nous fait un point de différence.
Eh bien, c'est vrai. C'est un vrai film.
Ah bon ?
C'est quoi ? Qui s'appelle Society. C'est un film de 89, c'est un gros nanar. C'est un film extrêmement bizarre, très très gore, complètement con, et vraiment t'as l'impression que c'est un téléfilm M6. Je vous conseille de le regarder juste pour vous taper, pour rigoler, et puis vomir à la fin évidemment. Parce qu'à la fin il y a une orgie, mais en fait ils mélangent leur corps, ça c'est dégueulasse.
D'accord.
Et il y a un mec qui a la tête qui lui sort littéralement du cul, et je ne rigole pas, c'est impressionnant. Bref, voilà voilà. Bon bah écoutez, voilà.
Qu'est-ce que vous savez, si vous savez pas quoi faire votre dimanche soir, voilà.
Voilà. Voilà. Après, Society, un deuxième dimanche soir quand même.
Society, c'est vraiment impressionnant. Donc dernière
le
question.
Dernier, on est à 5-4 du coup.
Fraîchement diplômée de son école, Coralie est face à l'angoisse de la page blanche. Alors qu'elle passe en revue son enfance, elle a l'idée d'écrire quelque chose qu'elle pense être révolutionnaire, alors que pas du tout, c'est complètement de la merde.
Je dis que c'est faux. Est-ce que si je trouve le titre de ton faux film, ça me fait un point en plus?
Oui.
La merde blanche.
Moi je pars sur un
Ah mais il en manque un. Ok c'est bon, allez-y.
D'accord, c'est okay. L'effaceur.
Alors non, du coup c'est Revenge Genesis. Voilà, c'est... bonjour. Voilà, je...
Ah c'est ah,
ça sera vraiment gratuit. Gratuit. Dis, allez, super. On y va, on s'amuse.
Bravo. Donc alors, il en reste coup, un dernier.
Donc il en reste un dernier.
5-4.
En l'an de 1184, la Terre a été dévastée par un cataclysme nucléaire. Au milieu des carcasses et des ruines évolue pourtant un petit garçon, accompagné de son iguane à deux têtes, à la recherche d'une forme de vie. Mais bientôt, les ennuis vont le rattraper, alors qu'il se retrouve au milieu d'une guerre opposant les impériaux et les renégats.
Bah, c'est pas le dernier Star Wars, ça.
c'est petit, ça. Du coup, c'est un vrai film ou c'est un faux film?
Bah, c'est un vrai film.
Vrai.
Complètement.
Vrai
complètement.
Film
bah oui, le lézard à deux têtes, 1984.
Mais ça peut être un Star Wars, hein.
Vous dites vrai film ou pas, vous?
C'est impériaux et renégats.
Les impériaux et les renégats.
Bah, les vrais films.
C'est pas le Star Wars de Noël, je suis sûr que c'est un Star Wars.
Non, c'est pas, non, non, j'ai Wars vu le Star Wars de Noël, ça parle pas de ça.
Ah ouais?
Ouais. Non, coup, c'est t'entends 45 minutes du Wookiee qui font.
Ouais, c'est
chiant.
Ouais.
C'est horrible.
Du coup, c'est un vrai film pour vous
ou... Oui.
Ouais. Moi, j'aimerais bien que ce soit un vrai film. Vas-y, on dit oui aussi, comme ça, on a tous pareil. Comme
bien,
ça, on les bat. C'est pas de risque.
Ce film n'existe pas.
Ah, dommage.
Ce film n'existait pas. L'iguane à deux têtes, je me suis dit, c'est une bonne idée. Bon, ça s'appelle Mad Max Origins.
Sur le Mad Max, voilà. En plus, j'ai hésité à dire ça, mais.
Intéressant. Et bien voilà.
Bah, du coup, la victoire est ici, côté Florian et Nam.
Florian.
Florian, quel est ton coup de projo vu que tu as gagné ce quiz?
Ce sera Street Trash. Okay. Une expérience que je pense intéressante et qui fera débat.
C'est ça vient d'où? Ça date de quand?
Alors c'est un petit film américain dont le réalisateur est désormais steadicammer à Hollywood et a totalement désavoué son film.
Très bien.
Il ne veut plus en entendre parler. Voilà.
Okay. Bon, on garde le pitch secret. Ça me permettra d'avoir la tête solide et sur les épaules pendant encore quelques minutes. En attendant, on a fait le tour des sorties de la semaine, du coup de projo, du quiz. On se dit à l'émission prochaine, ça sera fin février du coup. Et puis en attendant, allez au cinéma et regardez des films, Max. Ciao.
Au revoir.